CFM, le mag, la vie du pays cordé.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en CFM Corde. Et voilà, il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Musique sur Ciel à Corde. Fini les répétitions portes ouvertes qui résonnent dans toute la cité. Fini les rendez-vous quotidiens autour d'un répertoire d'excellence. Fini les interprètes à chaque coin de rue qui nous offrent des concerts inoubliables. Et vous là, qui râlez de cette joyeuse harmonie, attendez que le petit dernier de la famille d'à côté se mette au violon ou à la trompette et vous allez regretter les délices du festival. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore une journée et vous pouvez encore dire « j'y étais ». Pour nous parler en détail du programme d'aujourd'hui, de la semaine qui vient de se passer, les trois derniers invités de marque de la semaine, Nicolas Dautricourt, violoniste à l'affiche du concert de 17h30. Bonjour.
Bonjour.
J'ai pas écorché votre nom.
Si.
Si,
non, il a eu un petit temps d'arrêt,
oui,
mais c'est
ça.
Pas grave. J'ai
pardon.
D'affilée, c'est pas si simple.
Bon, j'essaierai de faire. Je vous appellerai Nicolas à partir de maintenant. Christian Urbita, président luthier de la CADOC.
Voilà, bonjour.
Bonjour. Et Sylvie Gérin, chargée de communication et presse du festival.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Sylvie. Avant toute chose, parlons de ce qui se passe là tout de suite en ce moment, puisqu'il est midi tapante et place Charles Portal.
Voilà, Florent Pujuila, qui est clarinettiste, nous donne un air de jazz. Donc voilà, c'est une surprise.
Donc,
et
alors,
c'est tout de suite.
Place Charles Portal, Florent Pujuila, voilà, qui sera également à l'honneur ce soir à 17h30 sur le concert de Jean-Frédéric Neuburger.
Il sera même là à 20h30.
Et à 20h30,
c'est
mais
sa
oui, voilà, c'est sa journée, c'est la star de la journée. Enfin, il n'y a que des stars en même temps, mais... donc voilà, petit air de jazz, il est encore temps d'y aller. Je pense que ça n'a pas encore commencé, vous pouvez courir et réécouter l'émission qui se passe en ce moment en podcast à partir de 13h. Christian, petit point sur la semaine qui vient de se passer.
Oui, il a fait très chaud.
Tant mieux, finalement.
Ouais.
Hein
ouais. Non, ça s'est très bien passé. C'était la première année qu'on faisait ces concerts, comment on les appelle, impromptus l'année dernière, mais commentés. Et c'est vrai que ça correspond parfaitement au public des cordés, des touristes qui se baladent et qui peuvent se rafraîchir un peu dans l'église et écouter de la belle musique et découvrir des œuvres. Donc c'est la première année qu'on faisait ça et je pense qu'on continuera parce que c'est très bien, quoi. C'est très adapté à Corde, au site.
Et donc une fréquentation plutôt positive
Oui, en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc là, on est ravis parce qu'on fait une programmation qu'on dit élitiste ou très pointue. Et c'est important aussi que les gens qui viennent au festival apprennent quelque chose, découvrent quelque chose. Ce ne soit pas un festival juste pour faire du nombre... Enfin, je ne citerai aucun autre festival, mais non, je plaisante. Mais bon, c'est bien parce que c'est un très haut niveau et il y a beaucoup de monde qui apprécie. On a un public toujours de très bonne qualité, qui est très fidèle, qui écoute cette musique. Il y a la qualité du silence, c'est extraordinaire, donc on est ravis.
Ouais, quelques moments d'exception, alors des bis, justement aussi des moments de pause après le concert où le public a eu du mal à applaudir tellement il était saisi.
Oui, ouais, après quelques... les quatuors de Beethoven par exemple, qui sont magiques. Il y a eu après le l'octuor de Mendelssohn qui est le dernier mouvement est flamboyant, ils ont dû le rejouer.
D'accord.
Et, donc c'était le quatuor Girard et Léonis qui ont joué ensemble. Non, oui, il n'y a que des grands moments, c'était très bien. Moi, je suis ravi de l'équipe, en plus. L'équipe a été très efficace, en plus, dans le sourire, enfin, dans la bonne humeur. Je suis content d'être revenu, parce que j'étais parti. Donc, il fallait une année de repos, une cassure, disons. Et ce que met en place Antoine Manceau, c'est très, très bien. Et on est tous ravis, et on espère que ça va continuer. Et voilà, il faut que les institutions nous aident encore plus, qu'il y ait plus de public, des mécènes, tout ça. Mais ça, c'est... Voilà, on commence à penser à 2014.
Oui, bah oui, oui, ça c'est généralement c'est comme ça que ça se passe. Et la demande express, à savoir que Antoine fasse tout et que vous ne fassiez rien en tant que président, est-ce que ça a été
Ah oui, c'est parfait.
C'est parfait, tout va bien.
Et moi j'en fais mieux, c'est donc je vais continuer dans cette voie, je pense.
Quand même écouter les concerts de temps en temps.
Ah, je vais attendre les concerts, oui, par contre. Oui.
C'est
très bien. Non, mais peut-être c'est avec l'expérience, tout ça, on apprend, on n'a plus la forme de d'avant, donc c'est important de savoir déléguer, on ne sait pas toujours le faire, mais pour déléguer, il faut avoir des gens de qualité, et là, on les a trouvés, on en a trouvé plein, et donc c'est très bien. Et c'est vrai, l'engagement d'Antoine avec Serge Meyer, enfin toute son équipe, toujours on dit Antoine, mais avec Margot aussi, c'est très très chouette parce qu'ils adorent Cordes, ils adorent la musique, ils veulent vraiment s'investir pour continuer. Donc ils s'étaient donné 3 ans, là c'est la deuxième année, et c'est encore mieux que l'année dernière, donc je pense qu'on fera un bilan, disons, l'année prochaine et voir la suite du festival.
Peut-être la continuité de cette nouvelle formule qui va proposer encore autre chose, peut-être.
Voilà, on va essayer d'agrandir, mais je pense il faut garder ces festivals dans des petits villages comme ça. C'est Fabio Biondi en parlait aussi, il disait la culture est en danger dans notre époque, donc il n'y a plus d'argent, ça on le sait, mais il y a de l'argent pour d'autres choses, donc il faut quand même, c'est très très important la culture,
toutes les cultures, pour tous les publics,
oui.
Abordables. Justement, Nicolas, vous qui voyagez à travers le monde, à travers les festivals de renommée classique, jazz, ça représente quoi pour vous d'être à Cordes-sur-Ciel ?
Christian disait qu'il avait fait une coupure d'un an. Moi, j'ai fait une coupure de 15 ans à Cordes-sur-Ciel, figurez-vous.
Waouh, waouh.
Parce que j'étais, j'ai eu le plaisir de... J'ai eu le plaisir de participer donc au festival il y a 15 et 16 ans, ou 14 et 15 ans, je ne sais pas exactement. Avec une équipe différente, d'autres gens, mais d'autres personnes. Enfin, Christian était déjà là et puis quelques autres. J'ai eu énormément de plaisir j'ai énormément de plaisir à être là, puisque ça m'évoque aussi de très très bons souvenirs, des souvenirs aussi qui étaient le point de départ, enfin qui représentaient le point de départ de ma carrière, et donc des rencontres, à mesure que j'arpente les rues de Cordes, les petites ruelles de Cordes, eh bien j'ai des souvenirs qui me remontent, certains artistiques, d'autres totalement extra-artistiques, certains qui peuvent se dire et d'autres, beaucoup qui ne peuvent pas se dire, en revanche.
De jeunesse.
Oui. Et donc c'est incroyable, c'est une sorte de... Voilà, c'est la musique telle qu'on aime la produire, la pratiquer, notamment l'été, puisqu'effectivement la France regorge de festivals. Il n'y a pas de petits festivals en réalité, parce que voilà, c'est dès qu'il s'agit de monter sur scène et de faire de la musique, eh bien on est toujours à fond et on le fait sans concession, et voilà, donc qu'on soit ici dans un format plus grand, dans un format plus petit, on est toujours c'est toujours un grand bonheur. Et puis effectivement là, le fait que ce soit que tout soit, je dirais, circonscrit dans un périmètre assez restreint, tout à pied et tout, c'est les choses sont... Les différents endroits sont joignables très facilement, on se hèle les uns les autres dans la rue pour se syndiquer une répétition ou un changement de répétition ou un lieu de dîner, de déjeuner, de trucs. Ça rend la chose extrêmement conviviale, et c'est un vraiment très très grand bonheur pour moi d'être là, et je suis heureux aussi de retrouver Christian, que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Et puis de voir à quel point tout ce qu'on m'avait dit sur Antoine et son équipe,
se révèle.
De façon très sympathique de communiquer, d'organiser les choses et tout, de constater à quel point tout ça était bel et bien vrai, et j'ai l'impression que ça, c'est une alchimie qui fonctionne très 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 bien, quoi.
Jolie parole sur les festivals, oui, Christian.
Oui, moi j'aimerais dire un mot, parce que Nicolas, en fait, c'est le symbole du renouveau, parce qu'il est venu quand on redémarrait cette résidence de jeunes musiciens, parce qu'il était jeune à l'époque, il y a 15 ans.
Ça m'est arrivé.
il y a encore, je vous rassure. C'était donc en 98 qu'il est venu, Et là, maintenant, c'est donc un renouveau, un départ. Et il revient là, donc je suis très heureux qu'il soit là. Et à l'époque, il avait joué dans la création mondiale d'Olivier Greff, qui revenait d'Amérique. Et avec l'orchestre, il y avait Jérémy Rohrer, qui avait fondé un orchestre avec des jeunes étudiants de Toulouse.
Beaucoup d'étudiantes.
Ça fait partie des souvenirs inavouables.
Par exemple. Je vais aussi dire quelque chose qui est inavouable, mais je leur prêtais ma 4L pour aller draguer à l'époque.
Wow,
ma 4L,
si elle pouvait parler, cette 4L, croyez-moi qu'elle ne viendrait pas à la radio pour le dire.
Donc, alors ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'en 1998, ils ont donné aussi le quatuor pour la fin du temps de Messiaen.
D'accord.
Et on l'avait oublié. Et c'est maintenant là, avant de venir à la radio, j'ai dit tiens, je vais voir qu'il y a 15 ans, le programme, en fait, c'était cette création d'Olivier Greff et le quatuor pour la fin du temps qu'ils vont donner ce soir.
Oui, oui.
Non, c'est chouette parce que j'étais à peine arrivé ici depuis une heure ou deux, un truc comme ça. Une dame qui est venue me voir. Ah, vous êtes Nicolas. Je l'ai aidé à mettre des bouteilles dans le frigo, vous voyez, tout à fait anodin. Puis elle me dit vous êtes Nicolas, oui. Un peu fébrile, tout ça. Et puis elle me dit elle se souvenait en fait d'il y a 15 ans, elle se souvient d'un quatuor de Schumann qu'on avait donné, et puis de ce Messiaen, la louange. Oh là là, elle en avait. Ça fait plaisir parce qu'on se dit on ne sait jamais vraiment en fait ce qui reste dans la mémoire des gens et pour lesquels on joue. Et puisqu'on communique relativement peu finalement avec le public, je te parle dans son entier, quoi. Et là, d'avoir cette dame qui. Ça m'a énormément touché. Je me suis dit, tiens, tout ça sert à quelque chose. Quoi. C'est chouette, vraiment chouette.
Mais ça fait presque un effet bilan, non? De revenir.
Le temps a passé, effectivement. L'eau monte, si je puis dire. Mais bon, c'est un. De toute façon, la vie est jalonnée comme ça. Ce sont des étapes. Tout, effectivement, 15 ans en plus, c'est un chiffre plus ou moins rond. Donc, ça fait un petit choc, mais ça va. C'est du bonheur. Essentiellement. Enfin, même que du bonheur, pour ainsi dire, d'être là, vraiment.
Mais alors, oui,
Christophe. Il s'est passé quelque chose aussi d'intéressant à l'époque, c'est les jeunes musiciennes de Toulouse, et les jeunes musiciennes, s'étaient cotisées pour faire revenir Jérémy Rohrer pour qu'il les fasse travailler après le festival. Donc ça aussi, c'est bien qu'un festival ait une suite après l'été, quoi. Donc c'était...
C'est drôle, elle s'était pas cotisée pour que je revienne, moi.
Je vais être vexé, tiens. Il y a beaucoup de choses très inavouables.
C'était le chef d'orchestre.
J'ai envie de profiter du fait qu'il y a un violoniste et un luthier dans la même pièce pour parler un peu de la relation luthier-instrumentiste, musicien. Vous qui, je le répète, vous voyagez quand même beaucoup. Ouais. Est-ce que vous avez un luthier attitré ?
Oui, j'ai à Paris deux ou trois personnes, disons, avec qui je m'entends très bien et qui s'occupe de mon instrument. En fait, l'instrument que je joue m'est prêté par une association, une fondation, pour ainsi dire. Donc, j'ai de très très bons rapports avec eux et ils s'occupent de l'instrument pour les grands travaux, si je puis dire. Bon, c'est assez récent, donc c'est pas encore arrivé qu'il y ait de grosses rénovations, restaurations à faire. Mais en tout cas, voilà, l'atelier Vatelot Rampal qui me prête très très généreusement cet instrument, ce très bel instrument. Et puis, au fil du temps, j'ai noué avec deux ateliers distincts des relations de confiance et puis d'amitié et du coup pour les petites choses par-ci par-là. Alors je vais dire aussi pour le consommable, c'est un peu trivial de dire ça, mais pour tout ce qui est des cordes, des mèches et tout ça, c'est agréable d'avoir des personnes en qui on peut avoir confiance et puis à qui aussi on peut dire quand ça va pas ou quoi, enfin bon, puis aussi qu'on peut aller voir un petit peu à n'importe quelle heure, comme un médecin, un peu à n'importe quelle heure du jour, pas de la nuit, mais bon, à n'importe quel moment de la semaine, il se débrouille toujours pour retrouver un créneau, un moment, enfin bon, voilà, c'est un relationnel dont je suppose que Christian a le même avec ses patients. ici, voilà, c'est une relation au fil du temps qui s'installe et qui devient une relation amicale, quoi. Enfin, c'est dans le meilleur des cas et c'est chouette.
Et une question qui s'adresse à vous deux, d'autant que là, vous jouez du jazz et du classique. C'est ça ?
Ouais.
Et est-ce qu'il y a un violon typique jazz et un violon typique classique, ou est-ce que le même peut servir pour
Oui, le même sert. Bon, oui, il sert. Il peut avoir les deux fonctions. En fait, il se trouve que dans le jazz, on est souvent amplifié. C'est assez rare qu'on joue acoustique. Donc, on est souvent amplifié. Et du coup, je dirais que le son de l'instrument, enfin le son, la matière, vraiment ce qui fait tout l'intérêt en fait, du violon. Bien, je dois dire, oui, et étant donné qu'il lui a adjoint d'autres technologies, c'est moins important d'avoir un grand violon pour jouer, même si Grappelli avait un Strad ou d'autres, voilà, c'est pas essentiel. Il y a des musiciens, mais moi je ne suis pas jazzman professionnel, si je puis dire, j'en fais, je le pratique, j'aime énormément ça et je fais voilà de mon mieux et voilà. Mais de grands musiciens de jazz comme Lockwood, comme d'autres, comme Ponty, voilà, jouent des instruments qui leur sont des instruments qu'ils ont soit conçus ou en tout cas, qui sont le fruit aussi de leur imagination, de leur création. Ponty joue avec un violon tout bleu. Sympa. Moi, j'aime bien. Et en fait, je parlais avec son pianiste, William Lecomte. Il disait qu'il l'avait trouvé dans le grenier ou je sais pas quoi. Un violon tout bleu. Allez, ça va. Dessus. Moi, j'aime bien.
Comme la trompette puis, de Miles Davis.
Ça sonne très bien. Et puis voilà, Lockwood a son un violon un peu spécial, je crois, et puis qui trafique avec des pédales et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est une aventure extraordinaire, quoi.
C'est autre chose.
Voilà, c'est un petit... Ouais, c'est autre chose. Même si techniquement, c'est possible.
Oui. J'ai bien aimé, Nicolas n'a pas pu dire les clients, parce que c'est vrai qu'il y a une relation d'amitié. Oui. Et bon, c'est pas les patients, parce qu'ils sont pas malades non plus, mais c'est vrai que ça devient... Certains, oui.
Certains, oui.
Mais c'est vrai que c'est important, la relation musicien-luthier. Parce que nous, on peut toujours améliorer un violon, on peut toujours. Enfin, et c'est bien qu'il y a cette fidélité entre musicien et luthier, c'est très important, quoi. Et ça devient une amitié plutôt que quelque chose de commercial.
Et ouais. Hier, ça s'est bien passé, justement, cette rencontre, cette discussion entre musicien et luthier.
Mais voilà, donc moi, depuis 10 ans à peu près, je ne fais que de la fabrication, parce qu'il y a plusieurs facettes. Un luthier, il y a ceux qui font de la restauration et commerce ou expertise. Puis, il y a location, il y a commerce, il y a expertise et fabrication. Donc certains font tout. Et certains, enfin, si on veut vraiment aller au bout de
Pardon.
Voilà, j'ai raccroché. Il faut vraiment, disons, un peu se spécialiser. Comme Étienne Vatelot, qui est décédé récemment, était un grand expert, quoi. C'est après, bon. Et pourquoi ? Ah oui, donc, je vais expliquer un peu mon approche du violon, qui est c'est l'aboutissement de 10 ans de recherche. Donc, c'est autre chose. Enfin, bon, il faudrait demander à Nicolas s'il a apprécié.
Ah oui, beaucoup, oui, tout à fait.
C'était intéressant, oui.
Ouais, non, puis... Non, mais Christian est, comment dirais-je, c'est un peu impossible de le dire, mais il est totalement passionné et il se voue corps et âme
quête,
à sa passion et, sa vocation, sa passion. Et du coup, oui, c'est ça, c'est une quête quasi infinie, quoi. D'autant que en fait, la posture des luthiers, souvent, est assez complexe parce que. Les instruments, on sait, enfin, il y a eu certains luthiers du passé qui ont vécu de leur art et qui ont réussi à très bien vivre par la diffusion de leurs instruments et tout, mais il y a aussi l'inverse. Et donc, c'est un pari sur la postérité d'une certaine manière. Être luthier, c'est aussi c'est parier sur un lointain très hypothétique de comment sonnera son propre instrument dans un siècle, quand le vernis aura, quand les arbres que va couper à la hache après un voyage en autostop, oui, mesdames et messieurs, qui dure 3 mois aller-retour, voilà,
à cheval,
bien sûr, en pousse-pousse, et le cas échéant que Christian arrive devant l'arbre, qu'il coupe l'arbre, il revient, et puis tout ça, finalement, il sait comment ça va sonner à très court terme, mais aller savoir ce qui aussi va mettre dessus, le vernis, tout ça, la façon de c'est un pari sur quelque chose qu'il ne... Enfin, aller savoir peut-être, mais qu'il ne verra, que nous, autour de cette table, personne ne verra. Donc ça, c'est voilà, et c'est admirable la façon dont il le vit, dont il le fait, enfin, avec la passion avec laquelle il le... il le fait. Moi, j'ai bien aimé quand il a dit hier que normalement, parce que quelqu'un lui posait la question de savoir combien de temps ça mettait pour faire un violon. Et puis Christian a dit, sauf si j'ai pas entendu, mais il a dit normalement, on fait un violon par mois ou un truc comme ça. C'est plutôt plus ou moins la durée, tout ça. Et puis là, je me suis demandé ce qu'il allait dire. Et d'aucuns auraient pu dire, mais moi, j'en fais 4 par semaine. Enfin, madame, vous voyez. Et ben non, Christian, il a dit, mais moi, j'en fais 2 par an. Et c'est ça, hein, j'en fais 2 par an. Et c'est justement, c'est être pleinement dans le fait de prendre du temps, d'être dans la réflexion, dans le
et je ne fais que ça, parce que
voilà c'est... et c'est ouais c'est ça et mmh. J'ai trouvé que c'était beau d'assumer d'être de chercher la plénitude, vraiment le temps que ça prendrait, tout ça, la maturation nécessaire, et voilà, c'est chouette. Et le résultat, eh bien, pour l'instrument en tout cas que j'ai essayé hier, est vraiment très 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 probant, et c'est incroyable parce que ce violon n'a jamais été joué.
Il sort
du garage, si on peut dire, et il sonne déjà très 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 bien. Donc il faudra juste des jeunes pour le ouais. Faire éclore,
faire vibrer.
Ouais. Voilà.
Et justement, c'est un art qui est ancestral, et presque en fait pour chaque luthier, c'est un art expérimental. Parce qu'on ne sait jamais si Stradivarius a fait ci ou ça, en fait. On ne peut pas savoir comment il a construit son violon. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Oui. Là, il faudrait... On peut en parler pendant
très
longtemps.
Pendant des heures.
Si j'essaie de résumer, le problème de la lutherie, c'est que vers 1750, tous les grands luthiers sont morts. Et ils n'ont pas formé d'autres... des apprentis ou des élèves. Et on s'est aperçu... je ne sais pas, 20 ans, 30 ans après, que c'était extraordinaire, que c'était exceptionnel, cette lutherie. Et donc, on s'est mis à copier ces instruments, enfin la lutherie, et depuis 200 ans, on dit, on pense que si on copie la forme, les proportions, on va avoir le même son. Et en fait, ça, les proportions sont extrêmement importantes, mais en fait, tout ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire, on pourrait dire, l'ordonnance des molécules à l'intérieur du bois, et c'est ça qui est la différence. Et tout ça, c'est presque une recherche spirituelle pour arriver à transformer la matière. C'est de l'alchimie, en fait, qu'on fait, enfin, quand on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc, la lutherie était dans un impasse, parce que c'est pas en copiant les Stradivarius qu'on va arriver à faire aussi bien. Donc, il faut... Il y a d'autres... Et le violon moderne... Enfin, ces instruments ont été modifiés pour adapter à la musique de l'époque, c'est-à-dire au 19e. Et le violon moderne, qu'on appelle, et c'est une copie des Stradivarius qui ont été modifiés déjà. Donc on n'est plus dans l'original. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire, c'est de repartir sur le violon moderne. C'est-à-dire avec des proportions, mais qui tiennent... proportions des violons à l'origine, en tenant compte de ces modifications au 19e, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, il y a toute une musique magnifique qui existe. Et à partir de là, créer le violon du 21e siècle, quelque chose de plus cohérent. Et ça, c'est au niveau des proportions. Mais alors, quand on dit ça, on dit, ah, c'est ça, c'est le secret, ça va marcher. Et puis, ça ne marche pas. Et puis après, on dit, bon, il coupait le bois à tel moment. Ah, c'est ça. Enfin, par exemple, moi, j'y vais le 21 août, là, c'est à la pleine lune du mois d'août, qu'il faut couper pour les violons. Et on dit, ah, ben c'est ça le secret. Et puis, non, ça ne marche pas. Et puis après, on dit, bon, mais le bois, il faut le faire sécher d'une certaine façon. Et voilà, et depuis 10 ans, j'ai passé tous ces paramètres. Et tant que tous les paramètres ne coïncident pas, eh bien, on pourrait dire, ce moteur qui est le violon ne tourne pas. Et voilà, et y a des centaines de paramètres. Et ils sont c'est pas grand-chose, mais ils sont indispensables. C'est comme un ordinateur, s'il manque une petite pièce, il ne va pas marcher, alors que tout est là. Et voilà, j'ai mis 10 ans pour avoir tout là. Et là, je suis presque là.
D'accord.
Enfin, je dis presque, mais parce qu'on n'arrivera jamais à la perfection. Mais enfin, c'est dans une voie... Voilà.
Une voie presque spirituelle. Et on peut venir vous voir dans votre atelier? Est-ce qu'il y a des visites? Non, c'est privé. C'est la sphère privée. Non, mais c'est une question.
Oui,
hein.
Oui, je me cache, je me protège.
Voilà. Ça donne envie, en fait, de vous poser plein de questions.
Donc, et voilà, ils auraient pu venir hier.
Voilà, c'est ça. Attendez l'année prochaine.
L'année prochaine, voilà.
Donc, notez toutes vos questions dans un petit carnet et attendez l'année prochaine pour rencontrer Christian.
Et voilà, l'année prochaine, j'en serai encore au plus, donc il faut revenir. Quoi.
Voilà. Je crois qu'il est grand, grand temps de parler du programme d'aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure là, la clarinette résonner dans les rues de Cordes. Je pense que le concert est terminé maintenant, mais à 17h30...
Elle résonnera de nouveau pour un programme de... C'est une carte blanche à Jean-Frédéric Neuberger, qui est compositeur en résidence à Cordes-sur-Ciel. Alors, une résidence virtuelle. Il sera avec nous en visioconférence. Et c'est un tout jeune musicien, pianiste et compositeur, mais peut-être que Nicolas peut nous parler un peu de son écriture.
Alors Jean-Frédéric, moi je le connais, comment dirais-je, c'est un ami, un très 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 bon camarade, un musicien exceptionnel, je dirais même que c'est un, pas un petit génie, mais un grand génie. comment dirais-je, alors son œuvre en particulier, l'œuvre que nous allons jouer donc à 17h30, est un quatuor avec piano et clarinette, donc une formation, la même formation que le quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, donc piano, violon, violoncelle et clarinette. C'est une œuvre d'un seul tenant, d'un seul mouvement qui dure une vingtaine de minutes, qui s'appelle Plein ciel, comme le poème de Victor Hugo de la Légende des siècles. Et absolument le bien nommé Plein ciel en très bonne circonstance ici, et donc et c'est une œuvre que je considère vraiment comme un très grand chef-d'œuvre, et c'est admirable à son âge, en Frédéric qui a, je sais pas, 26 ans,
oui.
Ouais, cette œuvre vraiment est l'expression d'une maturité exceptionnelle, d'une grande inspiration. J'ai eu la chance de la jouer avec lui à Tokyo là il y a 2-3 mois, et c'est le début, j'espère, d'une longue collaboration autour de cette pièce. C'est une œuvre que j'ai tout de suite appréciée énormément, et le fait d'être sur scène avec cette pièce regorge d'une énergie et d'un feu absolument de quelque chose de tout à fait flamboyant du début à la fin, vraiment d'une énergie inextinguible qui est en perpétuelle palpitation. C'est absolument incroyable. Et puis la façon de traiter les instruments sur le plan là strictement instrumental, c'est une pièce qui est difficile, bien sûr, très exigeante, mais qui est admirablement écrite pour chacun des instruments. Et vraiment, les bras m'en tombent, quoi, sincèrement. C'est pas parce que c'est mon pote, c'est aussi, enfin, mais on est tous vraiment. Et au-delà de ça, juste un petit mot sur lui, quoi, qui est un être de musique dans le sens le plus large, puisqu'il est un grand pianiste, compositeur, jeune compositeur, mais déjà très grand compositeur, et aussi quelqu'un de humainement exceptionnel. Et je tiens à souligner cet aspect des choses parce que on a souvent des gens très doués qui sont un peu hors normes, un peu génies sur les bords, et qui accusent de grosses lacunes humaines ou sociales, et qui sont un peu barrés dans leur truc et inaccessibles et inatteignables, que sais-je, enfin qui sont un peu dans leur planète, et Jean-Frédéric réussit le miracle de combiner d'être un artiste exceptionnel et un camarade et un être humain d'une générosité infinie et d'une sensibilité extrême. J'ai pas assez de superlatifs pour le qualifier. Vraiment, je lui dois rien. C'est pas parce que je lui dois 3 000 euros et que j'aimerais bien attendre un peu pour lui rendre. Ça n'a rien à voir.
Bon, enfin, ça m'arrangerait quand même. Mais
c'est vrai que ça m'arrangerait quand même. Mais non, ouais. Non, mais voilà, je sais pas. J'ai pas. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis tous les gens qui seront sur scène tout à l'heure partagent cette opinion de lui. Donc on est très très heureux de faire ça ici, vraiment.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller à 17h30 pour le concert commenté. Voilà, il n'y a rien à rajouter, sauf qu'à 20h30,
nous aurons à nouveau un quatuor avec Romain Descharmes au piano, Pierre Fauchonneret au violon, Livia Stanez au violoncelle et Florent Pujuila à la clarinette. Et dans un programme très à l'image de tout ce qu'a voulu le festival pendant ces 6 jours, un programme où dialogue différentes époques. On aura une sonate pour piano et violon de Ludwig van Beethoven, c'est la dernière qu'il a écrite. Une pièce violon-violoncelle de Raphaël Merlin, écrite, oui, tout jeune aussi, c'est le violoncelliste du Quatuor Ébène, et il l'a écrite en 2012, elle a été écrite en 2012, donc c'est tout récent. Et une pièce d'Olivier Messiaen, le Quatuor pour la fin du temps, comme on parlait tout à l'heure.
Eh bien, le temps passe, donc rendez-vous, là, plus maintenant au midi, puisque voilà, le concert est terminé. Rendez-vous à 17h30 pour Plein Ciel.
Plein Ciel, absolument.
Voilà, de Jean-Frédéric Neuburger. Alors, avec Philippe Atta au piano, Nicolas Dautricourt au violon, Florent Pujula à la clarinette, Livia Stanez au violoncelle, que l'on retrouve le soir à 20h30 pour alors le programme Beethoven, Raphaël Merlin, Olivier Messiaen. Donc, Florent Pujula de nouveau, Livia Stanez de nouveau, Pierre Fouchonneret qu'on a entendu à peu près pendant tout le festival et Romain Descharmes au piano. Merci messieurs, dames.
Merci.
Et bonne fin de festival à vous. Voilà, moi je n'ai qu'à dire sniff. On se quitte sur Ludwig van Beethoven, la sonate pour violon qui sera jouée ce soir. Belle journée à vous et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.